Vous savez que depuis quelques semaines maintenant, nous sommes dans cette pensée que quand Dieu nous invite à avoir la foi, c'est quelque chose d'équilibré. Il y a un équilibre dans la foi. Et on a tous été dérangés ou déçus par des personnes qui manquaient d'équilibre alors qu'elles disaient qu'elles avaient la foi. J'invente rien. Vous êtes d'accord? Et on voit quand on étudie la parole de Dieu en détail, que quand Dieu nous invite à avoir une vertu, tout de suite il y en a une autre à côté pour la contrebalancer, parce que l'équilibre, c'est justement cette harmonie entre des choses qui sont un petit peu opposées. Mais le Seigneur, par la foi, nous donne d'avoir de l'équilibre. Et je vous avoue ce matin que c'est pas, comment dire, pas une pensée qui m'est venue comme ça, mais c'est un jour un pasteur m'avait parlé de cette notion-là, et il avait dit, un jour on fera l'étude. Et jusqu'à aujourd'hui j'attends. Alors c'est un peu par frustration, je me suis dit, bon, plutôt que d'attendre qu'il fasse l'étude de ce pasteur, je vais la faire moi l'étude, avec la parole de Dieu, et surtout avec la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là ce matin, vous le croyez? C'est Dieu qui nous l'a dit. Jésus nous dit que quand deux ou trois se rassemblent, il est là au milieu de nous. Et comment est-ce que Jésus est là? Pas en chair et en os, mais par le Saint-Esprit. Que son nom soit béni. On a parlé que l'amour, déjà, c'était l'équilibre parfait. Quand on est rempli de cet amour, pas n'importe quel amour, pas l'amour humain, mais l'amour qui vient de Dieu, alors il y a vraiment une foi équilibrée qui se manifeste dans notre vie. On a parlé de la dernière fois qu'il y a des moments de joie, il y a des moments de pleurs. Encore ce matin, il y a des moments de pleurs quand on entend donc la nouvelle que je vous ai donnée par rapport à ces personnes qui sont parties auprès du Seigneur, surtout pour les familles, mais comme le disait aussi Claude, il y a une joie parce que ils sont dans la félicité, dans le repos. Et c'est ce après quoi nous soupirons tous. La joie, les pleurs, il y a des moments de paix. Dieu nous invite à être réconciliés avec lui pour avoir la paix. Et une fois qu'on a la paix, alors on peut remporter des victoires, comme ça a été encore rappelé tout à l'heure. Ce matin, je voudrais continuer à dérouler le fruit de l'esprit. On a commencé avec l'amour, la paix, la joie. Est-ce que vous savez c'est quoi les deux suivants? La patience et la bonté. Peut-être vous allez me dire, moi, j'ai pas besoin de patience. Alors ce matin, je prêche surtout pour moi en premier, parce que moi, j'ai besoin d'apprendre encore à grandir dans la patience. Peut-être qu'il y en a quelques-uns quand même qui vont dire, moi aussi. Mais regardez ce qu'il est dit dans Hébreux au chapitre 6, le verset 11. Alors dans ce fruit de l'esprit, il y a des vertus qui sont là, mais c'est important qu'on puisse les contrebalancer. Et quand le Saint-Esprit nous saisit, quand le Saint-Esprit vient déposer sa semence au travers de la parole de Dieu en nous, ça produit un bon fruit, entre autres la patience. Mais on peut être tellement patient qu'on croise les bras et qu'on se tient au bord du chemin et qu'on ne fait rien. Et on se rend compte que c'est pas ça la patience dont Dieu parle. Dans Hébreux chapitre 6 et le verset 11, il est dit ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la persévérance, on pourrait dire, passer le même mot, par la patience, ils héritent des promesses. Amen. Vous voyez que dans ce verset, il est question donc de persévérance, il est question de foi, mais une foi équilibrée, c'est une foi qui est patiente, et c'est une foi aussi qui manifeste du zèle. Alors d'abord, parlons de la patience, parce que si vous en avez pas besoin, j'en ai besoin moi. Quand on a une foi équilibrée, on sait être patient, ça veut dire être endurant, ça veut dire être persévérant, tout ça c'est les mêmes mots, et ça veut dire cette qualité qui consiste à persévérer, quelles que soient les situations, même si le temps semble passer, que rien ne bouge, on choisit de persévérer. La Bible nous parle des dangers de l'impatience. À plusieurs reprises, commençant par le peuple d'Israël, il est dit à un moment donné qu'il voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Moïse, il était sur le Sinaï. Il était dans un bon endroit et il vivait de belles choses avec Dieu. Mais eux, ils étaient en bas de la montagne, au pied de la montagne, et ils vivaient rien de spécial. Et il est dit que le peuple s'assembla autour d'Aaron. Ils se sont impatientés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Une bonne chose? Ben non, ils ont demandé, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous une idole. Alors, ils l'ont pas dit comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. Ils ont sorti un veau d'or et devant lequel ils se sont prosternés. L'impatience les a amenés à faire un faux Dieu. Ça nous fait réfléchir. Mais quand on regarde dans Nombre au chapitre 21, verset 4, là il est dit carrément, le peuple s'impatienta en route, parce qu'ils étaient arrivés devant le pays de la promesse, et ils n'avaient pas cru qu'ils étaient assez forts, pourtant il y avait Dieu, il y avait la nuée qui les accompagnait, le jour et la nuit, une colonne de feu qui était là, et pourtant ils se sont dit, mince, face à ces géants, on n'est rien du tout. On va pas pouvoir y arriver. Dieu avait promis, ne vous inquiétez pas, vous allez être vainqueurs. Mais ils ne l'ont pas cru. Arrivés devant le pays, ils ont fait demi-tour et sont retournés dans le désert. Est-ce que c'est normal à ce moment-là de s'impatienter? Ah ben oui, quand on a une promesse qui est par là et que Dieu nous dit, voilà, vous allez aller de ce côté. Et il peut monter certaines pensées dans notre cœur d'impatience. Le problème, c'est quand on laisse ces pensées s'installer en nous, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils se sont impatientés en route et il est dit qu'ils parlèrent contre Dieu et contre Moïse. Est-ce que c'est une bonne chose? Vous voyez qu'à chaque fois qu'il est question d'impatience, les décisions qui sont prises dans l'impatience ne sont jamais bonnes, en tout cas dans la parole de Dieu. Et c'est déjà une leçon. Je pense aussi à Saül à un moment donné, il était là, il voyait les Philistins qui arrivaient, il était sur une montagne, il voyait donc cette armée qui l'entourait et Samuel lui avait dit « Surtout, attends-moi !» Et je vais offrir un sacrifice et Dieu va vous donner la victoire. Vous vous souvenez de ce passage? Vous lisez ça dans 1 Samuel. Et qu'est-ce qu'il a fait Saül? Il s'est impatienté. Et comme il voyait que sur sa montre que Samuel n'arrivait pas à l'heure dite, il a dit « Bon, pour gagner du temps, je vais moi faire le sacrifice. » Or lui, il n'avait aucune possibilité de le faire. Dieu avait choisi des personnes. Samuel en faisait partie, c'était un prophète de Dieu, mais Saül c'était seulement le roi. Et chacun avait son rôle bien défini aux yeux de Dieu. Mais Saül, il a dit, je vais prendre les devants, je vais offrir moi le sacrifice, comme ça on va gagner du temps. Et ça fait partie, une des raisons qui a fait que Saül a été rejeté en tant que roi. Lui qui avait reçu l'onction de Dieu, lui sur qui le Saint-Esprit était descendu, a été rejeté de Dieu. Pourquoi? Une des raisons, il y en a d'autres bien sûr, la désobéissance, mais... l'impatience. D'ailleurs, l'impatience produit souvent la désobéissance. L'impatience, quand on est là et qu'on veut que les choses aillent plus vite, qu'on veut aller plus vite que la musique, et on prend de mauvaises décisions et on se plante au niveau de la foi. Mais la foi équilibrée, c'est patienter. Même quand on ne voit rien venir, même quand on a l'impression que tout est immobile, dans le ciel, si on a la vision spirituelle des choses, on sait que Dieu est à l'œuvre. Parce que Dieu a fait des promesses. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Et même si on ne le voit pas tout de suite, le Seigneur est celui qui fait son œuvre. Est-ce que vous avez déjà réfléchi que dans le ciel, il n'y a aucun moyen dans le ciel de grandir en patience? Parce que tout est parfait, tout est bien. Dans la présence de Dieu, on n'aura pas besoin d'être patient. Parce qu'on sera dans une sérénité et on se disputera plus, il y aura plus tous ces soucis. Et quand les personnes sont ensemble, ça crée des frictions un petit peu. Mais dans le ciel, c'est une paix totale. Mais comment est-ce que nous allons grandir en patience? Ben c'est Dieu qui permet des épreuves sur la terre. Vous me croyez pas? Regardez ce qu'il est dit. Vous avez raison de me remettre en doute, mais regardez, moi je fais que lire la Bible. Dans Jacques au chapitre... Alors c'est le chapitre 2 je crois. Alors attendez, j'ai pas trouvé le bon chapitre. Non, au chapitre 1er pardon. Jacques chapitre 1er. La patience ce n'est pas quelque chose qui s'invente, ça nous tombe pas du ciel comme ça. C'est un fruit, donc ça prend du temps pour que ça germe en nous, mais ça se produit la patience. C'est pas quelque chose qui s'invente, c'est quelque chose qui se produit. Et c'est ce que nous dit Jacques au chapitre 1er verset 2. Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Déjà là, c'est pas mal, hein? Regardez comme un sujet de joie les épreuves. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La mission, elle est haute, hein? Faut que nous soyons parfaits, accomplis, sans faillir en rien. C'est déjà quelque chose. Mais on sait que le Seigneur permet qu'on puisse tendre vers ce but-là. Et un des moyens qu'il emploie, c'est l'épreuve de notre foi. Nous avons la foi en Dieu, c'est merveilleux. Mais Dieu désire que nous puissions grandir dans notre foi. Et que quand l'épreuve de notre foi est là, ça produit la patience. Si on n'est jamais confronté à des épreuves, notre patience ne grandira jamais. C'est pour cela que Dieu permet des difficultés. Mais la Bible nous dit aussi qu'il ne permettra jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Et il nous donnera toujours le moyen de nous sortir des épreuves. Ça ne vous rassure pas, ça ? Moi, ça me fait du bien de savoir que le Seigneur, oui, il y a des épreuves, oui, il y a des difficultés, mais il sera toujours là pour nous soutenir. La patience, ce n'est pas quelqu'un qui se résigne. Ce n'est pas quelqu'un qui accepte son sort sans se débattre, sans essayer de remporter des victoires malgré tout. La patience qui croise les bras et qui s'arrête au bord du chemin, c'est la paresse. Vous avez remarqué, pour ceux qui ont regardé le mariage, le fameux mariage princier qui a eu lieu hier, entre Harry et Meghan, il y avait des personnes, vous savez, ils expliquaient qu'ils étaient là depuis des jours et des jours. Ils étaient là devant l'entrée du château de Windsor, simplement dans le but d'espérer voir à un moment donné les nouveaux mariés. Est-ce que ça ne demande pas de la patience ? Moi, j'imaginais 3 jours avant, alors il y a un beau soleil pendant qu'il s'installe, et puis il commence à avoir une tempête, il commence à avoir la pluie, il commence à avoir le vent, il commence à être de l'eau qui monte partout. Si ils sont vraiment motivés, ils vont rester et ils vont être patients. S'ils ne sont pas motivés, ils vont s'en aller, ils vont dire « bon, tant pis, je regarderai à la télévision ». Et des fois, on se dit « mince, pourquoi est-ce que je manque de patience ?» Ben, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas ce désir profond, ce désir véritable, cette envie de voir, on ne veut pas voir nous le prince Harry ou Meghan, on veut voir le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire se manifester dans nos vies. Amen. C'est ça que nous voulons voir, dans nos familles, que le Seigneur touche les cœurs, dans nos voisinages, que le Seigneur puisse amener des personnes à leur repentance. Voilà ce que nous voulons voir. Mais il faut, si nous sommes vraiment motivés et désireux de voir cela, alors nous allons développer de la patience. Et même s'il y a la tempête spirituelle qui se lève sur nous, on sait qu'on a avec nous celui qui calme la tempête d'un mot. « Tais-toi » a-t-il dit au vent, et à la mer, ils se sont tus. Il n'y a qu'un seul qui peut faire ça, notre Seigneur Jésus. La vraie patience, elle tient bon, quelles que soient les circonstances. Ce qui est remarquable, on a lu tout à l'heure 1 Pierre, mais dans 2 Pierre, on voit que l'apôtre Pierre, vous savez, 2 Pierre, c'est la deuxième lettre de Pierre, mais c'est une des lettres qu'il a écrites sur la fin de sa vie, vraiment. C'était vraiment le témoignage, le testament spirituel qu'il voulait laisser aux chrétiens. Et Pierre, dans cette épître-là, il utilise souvent le mot « attendre ». Il faut que nous attendions, on pourrait le lire, parce que c'est pas trop loin de Jacques, 2 Pierre chapitre 2. Alors, je vais marquer quelque part. 2 Pierre chapitre 3, je pense plutôt. Il utilise le verbe attendre. Alors, on peut lire à partir du verset 9, par exemple. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de quoi ? De patience. Envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite, par la piété, attendant, et quoi ? Attends l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, etc., etc. On peut lire après au verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochables dans la paix. Attendre. Et athée, pas athée, ceux qui sont athées, hein, mais athée avec un H, accélérer, avoir de l'empressement pour quelque chose, pour le retour du Seigneur. Travailler donc à ce retour. On doit à la fois être patient, mais si on veut être équilibré, ce n'est pas un patient qui croise les bras et qui attend que le jour du Seigneur vienne tout seul, c'est une attente active. Où on hâte le retour du Seigneur, on travaille, on s'empresse. C'est pour ça que j'ai lu ce verset qui allie à la fois le zèle d'un côté et la patience de l'autre. Si on est patient mais qu'on n'a pas de zèle, si on n'a pas de motivation comme on disait, ben la patience va vite, sans partir de notre vie. Mais si on développe dans notre vie ce zèle, la Bible parle d'une ardeur une ferveur d'esprit, une agitation intérieure, un empressement. Et on trouve dans la parole de Dieu le mot zèle soit pour de bonnes choses, on peut être zélé en faveur d'une cause ou d'une personne, ou on peut être zélé contre. On voit, à un moment donné, les pharisiens ont été zélés contre les chrétiens. Le début de l'Église, les pharisiens, et dont Saul faisait partie, Saul de Tarse, il était zélé pour la persécution. Donc, il faut faire attention avec le zèle. Il faut que le zèle soit appliqué à quelque chose de bon. Quand notre zèle il est appliqué au Seigneur, il n'y a aucune crainte, parce que c'est forcément quelque chose de bon. Mais nous devons être patients, et nous devons aussi être zélés. Comment est-ce que le zèle est produit dans notre cœur? Vous savez que la Bible, elle est très explicite. Et quand on étudie en détail, on se rend compte que ça tient vraiment la route. Et c'est important de méditer la parole. La dernière fois, on avait parlé de la tristesse, selon Dieu, qui produit une repentance. Vous vous souvenez de ce passage? La tristesse produit une repentance. Et juste après, il est question que cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement, quel zèle n'a-t-elle pas produit en vous? Ça veut dire que quand on se repent devant Dieu, quand on pleure parce qu'on reconnaît qu'on a fait quelque chose de tort et que le Seigneur nous corrige, il y a quelque chose qui monte dans notre vie. Parce qu'on a saisi le pardon de Dieu, on croit que l'œuvre de Jésus à la croix c'est pour notre pardon, on est pardonné, mais après il y a quelque chose d'autre qui remonte, c'est la reconnaissance. Quand on est vraiment pardonné, quand on a vraiment vu que ce qu'on avait fait était mal, mais que le Seigneur a oublié tout cela, il y a la reconnaissance, c'est le désir de faire quelque chose pour Dieu. Quand quelqu'un vous fait du bien, vous avez envie de lui rendre du bien, c'est normal. Comment est-ce qu'on pourra rendre tout le bien que Jésus a fait pour nous? Ben, c'est ce qui a été dit encore tout à l'heure, il faut offrir notre vie en sacrifice. Tout notre être entier, c'est ça que le Seigneur demande. La repentance produit le zèle. Peut-être vous dites, ah mais moi j'ai pas beaucoup de zèle, mais moi je vous invite, repentez-vous, allez devant Dieu simplement. Je vous pointe pas du doigt, hein. Vous savez quand on pointe quelqu'un du doigt, il y en a trois autres qui pointent en notre direction. Mais je vous dis, si vous voulez grandir dans le zèle, mettez-vous à genoux devant Dieu et dites, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, il y a peut-être la paresse dans ma vie, il y a des choses qui sont pris la priorité, il y a, Seigneur, des choses qui sont là dans ma vie qui prennent toute la place, mais je veux te demander pardon. Quand vous faites cela de tout votre cœur, le zèle va venir automatiquement. Parce que vous allez être quelqu'un de patient qui attend le retour du Seigneur, mais qui, à la fois aussi, se met à l'œuvre. Alors attention, quand même, à l'excès de zèle. On connaît tous l'excès de zèle. Je me souviens de ce pasteur qui racontait qu'il venait de se convertir. Donc il était tout jeune, peut-être une vingtaine d'années. Et il sortait d'une réunion où il avait entendu qu'il fallait rendre témoignage, qu'il fallait parler de Jésus autour de soi. Donc là, dès qu'il est sorti de la réunion, il était remonté comme une pile et il a regardé autour de lui. Il a vu un monsieur qui arrivait en vélo de l'autre côté de la route. Alors il a traversé, il passait devant les voitures, il a failli se faire écraser. Et puis il arrête, il se met devant le vélo en disant « Stop !» Alors le monsieur freine tout apeuré et lui dit « Jésus vous aime !» Alors le monsieur n'est pas tombé en repentance, il a pris son vélo, il a pédalé très fort et il est parti. Parce que... il était rempli de zèle, oui, mais il manquait un peu de sagesse. Et bien sûr qu'il faut être prudent, bien sûr qu'il faut être sage. Bien sûr qu'il faut demander au Seigneur d'avoir les mots et les attitudes qu'il faut pour rendre témoignage. Mais il faut quand même être zélé. Parfois on dit, ah, je veux pas manquer de sagesse, donc je fais rien. Ouais, mais si je fais rien, je manque de zèle. Et j'ai besoin que le Seigneur remplisse ma vie. Une fois équilibré donc, c'est... cet équilibre entre la patience et le zèle. On a parlé aussi de bonté. Dans Romains, chapitre 11, verset 22, il est dit ceci. « Considère donc la bonté, d'un côté, et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui te sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. » L'apôtre Paul, dans ce texte-là, aux Romains, il parle d'Israël. Israël qui a été le peuple élu et qui est toujours le peuple élu. Israël et les Juifs qui sont ce peuple que Dieu a choisi pour nous transmettre déjà sa parole. Israël que Dieu a donné toutes sortes de promesses, de bénédictions au travers d'Abraham. Mais pendant un temps, Israël a rejeté Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et donc, ils se sont privés de certaines choses. Et Dieu a permis que à cause de... C'est quelque chose de difficile quand même, qui se prive de la grâce de Dieu. Mais Dieu a permis que ça soit un moyen pour que toutes les nations, pas seulement un peuple, mais toutes les nations puissent parvenir à la foi. Et c'est pour cela que depuis que Jésus est mort à la croix, jusqu'à aujourd'hui, la foi est annoncée dans toutes les nations. Et un jour, quand le Seigneur va enlever les nations, toutes les personnes qui ont cru en lui, alors Dieu va s'occuper à nouveau d'Israël. Et il a un plan de salut, un plan de conversion pour Israël précis. Mais, dans ce passage, il est là pour souligner qu'il y a la bonté de Dieu d'un côté et la sévérité de Dieu. Nous sommes invités à être bons comme notre Dieu. Éphésiens 4 nous dit, soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Est-ce que vous avez cette bonne disposition? Ou est-ce que vous regardez quelqu'un dans l'assistance ce matin, vous dites, je peux être bon avec tout le monde, mais sauf lui. Si c'est comme ça, je vous réfère au Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Si on ne pardonne pas, si on ne veut pas être bon envers quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui la bloque. Mais Seigneur, non, je veux être bon. Et la bonté, parfois, c'est l'étape que Dieu demande, c'est qu'il y ait une action de pardon. Seigneur, je veux demander pardon à mon frère, à ma sœur. Vous savez que vendredi soir, nous, on était donc avec une équipe dans les rues de Toulouse pour donner des boissons chaudes, des gâteaux et puis des bibles et prier avec les prostituées qui sont là. Et il y a vraiment eu quelque chose qui m'a fait du bien. Et parce que on en a visité plusieurs le long du canal du Midi. Vous savez, il y a malheureusement Toulouse la nuit, c'est quelque chose d'incroyable, hein, dans le sens négatif. La journée, c'est une belle ville, Toulouse, mais la nuit, c'est vraiment les ténèbres qui règnent. Et donc nous, on est là avec notre petite camionnette et l'approche que l'on a pour ces filles de la rue, c'est on les invite donc à venir boire un café, à venir boire de l'eau, peu importe, du thé. Et puis on donne des bibles. Et donc il y a une de ces filles à qui on donne une bible. Alors la plupart sont nigérianes, elles parlent anglais, donc on donne des bibles en anglais. Et on essaye de parler en anglais. Alors c'est pas évident, hein. On a vraiment besoin de l'aide de Dieu. Mais on lui donne la bible. Et là, quand elle reçoit la bible, elle commence à dire « miracle, miracle, miracle ». Ça veut dire « miracle ». Miracle, miracle, miracle. Alors, une fois qu'on a compris ce qu'elle voulait dire, on dit, mais pourquoi tu dis miracle? Pourquoi tu dis miracle? Et elle dit, voilà, c'est incroyable, mais hier, jeudi, c'était donc ce jeudi, j'ai rêvé que quelqu'un qui était envoyé du ciel me donnait une Bible. Et le lendemain, donc, vendredi soir, nous, on est arrivés, on leur a dit, voilà, on est envoyé par Dieu, c'est Dieu qui nous met à cœur de venir vous voir pour vous donner cette Bible-là. Et donc, elle avait la Bible entre les mains et se souvenait de son rêve. Et elle disait, miracle, miracle, miracle. Le miracle, Dieu l'avait prévenu qu'elle allait recevoir sa parole. Tout ça pour quoi? Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Dieu est bon. Et Dieu, une des moyens de manifester sa bonté, c'est de nous donner sa parole entre les mains. Même à ces filles de la rue qui sont dans des situations difficiles. Un jour, la même équipe, j'y étais pas encore, mais ils m'ont raconté ça. Un jour, ils étaient en train de faire ça, de donner des bibles. Quelqu'un qui était dans le voisinage a vu par la fenêtre ce qui se passait et a commencé à crier. Alors, on n'entendait pas ce qu'il disait. La dame est descendue, puis elle est venue et elle leur a dit « Mais qu'est-ce que vous faites? C'est intolérable! Comment vous pouvez donner ce livre saint à ces personnes qui sont souillées, qui sont impures? Vous savez pas ce qu'ils font, là ?» Et ils leur ont dit « Mais si, on sait pertinemment. Mais on peut se souvenir de ce que Jésus l'a dit, hein. Pour qui il est venu, Jésus ?» Le médecin, il vient pour soigner les malades, il vient pas pour soigner ceux qui sont bien portants. Et ces personnes ont besoin de la parole de Dieu. Et moi, ce qui m'a touché dans l'histoire précédente, c'est que Dieu a permis que la parole de Dieu puisse arriver dans les mains de cette jeune fille. Et je crois qu'en la lisant, en comprenant l'amour de Dieu, elle va pouvoir réaliser qu'il y a des choses à régler dans sa vie et sortir de là, parce que Dieu l'a déjà fait pour de nombreuses personnes. Je ne veux pas m'étendre sur ça ce matin, mais Dieu pourra le faire pour elle. Dieu est bon et il veut mettre sa bonté en nous pour que nous puissions aller vers les autres, pour que nous puissions manifester sa bonté. Et la Bible nous dit ceci, ne méprise pas les richesses de la bonté, de la patience et de la longanimité de Dieu. On peut mépriser cela, on peut ne pas en tenir cas, ou alors on peut vraiment y faire attention. Mais reconnais que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Encore une fois, quand on réalise la bonté de Dieu, quand on réalise l'amour de Dieu, alors ça nous pousse à nous mettre en question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Seigneur, j'ai fait du mal jusqu'à présent, mais je te demande pardon. Et je veux faire du bien maintenant. Je veux être rempli de bonté. Attention toutefois, ne soyons pas trop bons. Ne disons pas oui à tout. Vous savez, le risque des gens bons, c'est qu'ils risquent d'être mous. C'est facile, hein? Les bonbons risquent d'être mous. La vraie bonté, c'est pas de tout laisser faire. C'est pas d'être laxiste, c'est pas d'être faible. Quand on doit dire quelque chose, il faut le dire à un moment donné. Et c'est pour ça qu'il est question de la bonté de Dieu et de la sévérité de Dieu. On sait que Dieu nous aime. Mais Dieu nous aime tellement que parfois il nous dit les choses sévèrement, parce qu'il y a des choses importantes. Le mot sévérité, on peut aussi l'apparenter à rigueur, faire les choses de manière rigoureuse, droite, vraiment une droiture qui est nécessaire. J'ai pris des exemples qui nous manquent, parfois c'est important la rigueur. Vous êtes à la caisse du magasin, vous achetez un article à 5 euros et elle vous donne un billet de 10. Et la caissière est pas trop rigoureuse, elle vous rend 2 euros. Ah non, il faut être bon. Donc c'est pas grave. Je laisse passer. C'est ça? Le carreleur peu rigoureux vous facture 10 mètres carrés de surface à carreler au lieu de 5. Bon, c'est pas grave, il faut être bon. Je laisse passer. D'accord? Non? Le docteur qui est pas rigoureux, il opère votre jambe droite au lieu d'opérer votre jambe gauche. Ce n'est pas grave, il faut être bon. Mais non! Son travail, c'est quoi? C'est de soigner ce qui est déréglé. D'essayer, en tout cas, de le soigner. Mais pas de dérégler ce qui marche. Donc, c'est normal qu'on demande que certaines personnes soient rigoureuses. Et avec Dieu, c'est pareil. Dieu nous demande, nous-mêmes, d'avoir de la rigueur. Et Dieu agit de la même manière envers nous. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Mais avec celui qui est méchant ou pervers, tu te montres méchant. Non pas que Dieu est méchant, mais Dieu, il agit en fonction de ce que nous faisons, nous. La sévérité, on peut dire que c'est l'amour qui se manifeste face au danger imminent. Je prends cet exemple, mais imaginez que votre enfant joue à côté de l'autoroute et qu'il envoie le ballon sur l'autoroute. Et que, comme tous les enfants, il a envie de récupérer son ballon. Donc, il va sur l'autoroute le chercher. Est-ce que vous allez prendre le temps de pas le froisser, parler gentiment? Mon enfant, je te prie, il faut que tu comprennes que tu es dans un endroit dangereux et donc que tu risques. Voilà. Est-ce qu'on commence à faire un discours dans ces moments-là ou est-ce qu'on court sur l'enfant, on l'arrache de force, même s'il veut récupérer son ballon à tout prix, on le prend dans nos bras, on le sort de là. Pourquoi? Parce qu'il y a sa vie qui est en jeu. On est d'accord? Ou peut-être c'est moi qui suis trop sévère. Alors pardonnez-moi. Mais moi, c'est comme ça que je ferai. Et Dieu, il agit de même envers nous. Parfois, il nous dit les choses avec bonté parce qu'il nous aime, il veut nous montrer qu'il nous aime. Et parfois, son amour se manifeste parce qu'il nous dit les choses de manière sévère. Jésus, dans la parole de Dieu, il est dit qu'il s'est mis à faire des reproches à des villes dans lesquelles il avait fait beaucoup, beaucoup de miracles, mais qui ne se sont pas repentis. Et là, à ce moment-là, il est obligé de faire des reproches. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu des personnes être guéries. Ils ont vu des boiteux remarcher. Alors c'est quand même incroyable. Mais dans leur cœur, ils ont dit, bon, mais c'est chouette, on a vu de belles choses. Mais je continue ma vie comme si de rien n'était. Et Dieu nous invite à aller plus loin que ça. Et être rigoureux avec nous-mêmes. Et parfois, il a même été très sévère. On connaît les béatitudes, bienheureux ceux qui sont pauvres en esprit, le royaume est à ceux. Là, c'est quelque chose qui nous encourage. Mais à d'autres, il a dit, maudits soient ceux qui font ceci ou cela. Il y avait des malédictions. Et vous savez, c'était adressé à qui? C'était adressé, on pourrait dire, aux pasteurs de l'époque, les pharisiens, les docteurs de la loi, parce qu'ils étaient responsables de l'état spirituel d'Israël et qu'ils ne cherchaient pas à le connaître lui. Ils étaient de ceux qui disaient beaucoup de belles paroles, mais ils faisaient rien. Et là, quand on est dans l'hypocrisie, ben le Seigneur, il est sévère avec nous. C'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Un double langage. Dieu est un Dieu de vérité. Mais même quand il nous reprend, il le fait avec douceur et tendresse. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, pour ceux qui le respectent, pour ceux qui choisissent de dire « Seigneur, oui, j'accepte de recevoir de temps en temps des reproches ». Je vous donne ce dernier témoignage avant de conclure. Qu'on m'a raconté donc quand j'étais à Toulouse vendredi. Il y avait une jeune fille qui était étudiante, très sérieuse, qui travaillait beaucoup, qui révisait à fond parce qu'elle avait des examens, et donc elle faisait les choses très 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 sérieusement. Elle prenait des heures et des heures tous les jours pour réviser. Et au niveau de l'écrit, elle s'en sortait très bien, mais alors c'est à l'oral, elle avait des difficultés terribles. Elle était malade quand elle savait qu'elle devait passer un oral. Et même si elle avait le cerveau rempli de toute la connaissance à cause de son travail, elle avait du mal à sortir les mots et à être en paix à ce moment-là. Mais vraiment, elle s'est appuyée sur le Seigneur. Et elle a compté sur le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose pour moi. J'y arrive pas. Je n'arrive pas à passer des examens oraux. J'ai besoin de ton aide. Et donc, elle s'est retrouvée un jour à préparer un examen, et un oral en particulier. Et la veille de l'examen, alors qu'elle avait révisé, hein, et elle avait, je ne sais plus combien de textes, si c'est une trentaine ou quarantaine de textes à voir, et le jour de l'examen, ils en choisissent un. Vous savez, ce principe-là. Et pendant la nuit qui précède l'examen, parce qu'elle avait fait cette prière, mais parce qu'elle avait été aussi sérieuse et rigoureuse, mais le Seigneur lui a montré quel texte elle allait avoir. Et donc ça, c'est, il lui montre dans la nuit. Alors je sais pas exactement comment il lui a montré, mais elle a dit, tiens, c'est ce texte que je vais réviser un peu plus que les autres. Et elle arrive le jour de l'examen, en paix, parce qu'elle avait cette assurance dans le cœur. Elle arrive le jour de l'examen, tout se déroule très bien. C'était exactement le texte que Dieu lui a montré. Alors c'est arrivé une fois, c'est arrivé deux fois, la même chose, mais en fait c'est arrivé six fois. Six fois où elle a eu un oral et Dieu lui a montré la veille ce qu'elle devait faire. Quand on est sérieux et rigoureux avec Dieu, le Seigneur il nous aide, il nous secourt. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réviser et attendre que tout tombe du ciel. Seigneur, tu vas me montrer le texte. Non, elle était sérieuse. Et le Seigneur nous invite à être sérieux. Et quand on est droit, quand on est rigoureux, la bonté de Dieu vient nous soutenir et vient nous permettre de faire au-delà de ce que nous-mêmes on pourrait faire tout seul. On va fermer les yeux quelques instants, mais